Bon matin, Nouvelle-Ville-la-Prairie. Est-ce que vous êtes en forme?
Oui.
Content de vous voir aujourd'hui, ce dimanche, et de voir de plus en plus de monde le dimanche me réjouit vraiment, même si l'automne arrive. Aujourd'hui, il fait pas très très beau, mais le fait de vous voir ici, ça réchauffe mon cœur. Alors regardez autour de vous, voyez le nombre de personnes qui sont là, et est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement pour ce que Dieu fait à Nouvelle-Ville-la-Prairie dans les deux réunions, de voir de plus en plus de personnes venir ici? Et si vous êtes ici, sachez que vous n'êtes pas juste des personnes dans une foule. Au contraire, vous êtes important. Important pour Dieu et important pour nous. Et réellement, aujourd'hui, je veux que vous puissiez comprendre que Dieu vous a créé de manière unique. Et Dieu veut réellement ne pas se passer de vous. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pas une coïncidence. Si vous pensez que vous dites, oh, je me suis levé ce matin et j'ai eu envie de venir à l'église ce matin. Je pense que Dieu vous a conduit ici parce qu'il a une parole pour vous. Combien le croient? C'est pas un hasard que tu sois ici. Au contraire, Dieu te voulait ici parce que quand tu n'es pas là, tu manques. Regarde ton voisin et dis, quand t'es pas là, c'est pas la même chose. On est heureux de se voir, on est heureux d'être ensemble et pas seulement en rangée, on est heureux d'apprendre à se connaître. C'est pour ça que la terrasse d'Espace Café est faite pour que on puisse ensemble tisser des liens. Je crois réellement que dans les dernières années, toute la société mondiale a vécu des relations difficiles, même au niveau familial, amical, au niveau des collègues. Maintenant, quasiment, on peut être une semaine en télétravail sans voir aucun de nos collègues, juste en Zoom, quasiment là. Et il y a quelque chose de fort dans l'interaction humaine. Dieu ne nous a pas créé pour être seul, il nous a créé pour faire partie d'une communauté, faire partie de famille, avoir des amis, être ensemble. Alors j'espère que vous avez faim de relations sociales parce que l'Église est là pour combler vos besoins. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls et je veux vous le dire, vous êtes uniques et vous êtes tous appelés à faire une différence pour Dieu. Et peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien, ou peut-être ça fait quelques semaines, peut-être tu vas prendre ton baptême dans les prochaines semaines et tu te dis, je suis vraiment au début de ma vie chrétienne, j'ai encore plein de choses à comprendre. Je commence à lire la parole, mais j'ai tellement de questions. Il y a la Bible, il y a tellement de choses que je dois apprendre. Comment je fais? Quand est-ce que je pourrais commencer à faire une différence autour de moi? Dieu te dit, dès que tu es prêt, je suis prêt. Dieu veut se servir de nous pour faire une différence. Parce que l'Église n'est pas seulement là pour venir et assister à un spectacle. L'Église n'est pas là pour venir et être réchauffée dans nos émotions. L'Église, c'est de l'action. On reçoit pour donner. On reçoit ici une lumière, on est encouragé, on lit la Bible, Dieu nous parle, on vit des moments intenses, on se consacre ensemble pour qu'ensuite, quand on reparte le lundi, mardi, à la job avec la famille, on fasse une différence et Dieu brille à travers nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas juste je viens en tant que spectateur. Non, Dieu veut que tu sois acteur de son Église pour faire une différence. Dieu dit, je ne veux pas me passer de toi. Et nous, on dit ce matin, et c'est le titre de mon message, on ne peut pas se passer de toi. Dis-le à ton voisin encore une fois, à ton autre voisin, on ne peut pas se passer de toi. On ne peut pas se passer d'aucun d'entre vous parce que Dieu ne veut pas se passer d'aucun d'entre nous. Il est venu pour sauver l'humanité et être partenaire avec nous pour propager la bonne nouvelle. Quel privilège, vrai? Est-ce que déjà tu t'es senti inutile dans ta vie? Est-ce qu'il y a déjà une place où tu te sens inutile? J'ai vu des images sur Internet qui étaient vraiment drôles. Il y a une photo qui arrive. Si tu penses que t'es inutile, parfois rappelle-toi qu'il y a des maîtres nageurs aux Jeux Olympiques de natation. Tu sais, si quelqu'un sait pas nager un peu dans le bassin, ben il faut sauter pour aller chercher. Si tu penses que tu es inutile, parfois pense aux gardes du corps de Jason Momoa. Ça va te rassurer que t'es pas si inutile que ça, tu sais. Qui protège qui, on ne sait pas. Bon, on va. Ok, la blague se rend petit à petit. On va laisser un temps. Il y a un décalage horaire dans la salle. C'est bon. Tout le monde est à son rythme, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de condamnation. Si tu penses être trop petit pour faire une différence, rappelle-toi, c'est comment de dormir avec un moustique. Oh, ok. Même le plus petit des moustiques, quand tu dors, même si tu le vois pas. Tu sais qu'il est là et puis à un moment donné, ça. Qui arrive à dormir avec un moustique? C'est impossible. J'ai l'impression qu'il y a l'enfer qui est en train de me crier dans les oreilles. Je suis comme, il faut que je me réveille. Et quand tu allumes la lumière, il n'y a plus personne. On dirait que c'est un complot quelque part là, tu sais, pour t'empêcher de dormir. On n'est pas inutile. Et même si parfois tu peux te penser inutile dans cette société, peut-être parfois on a des crises de vie, on sent qu'on n'a pas assez accompli, on se sent inutile. Je veux te dire, écoute-moi bien, que Dieu, par la Bible, nous montre que même le plus insignifiant d'entre nous est utile à son royaume. Et même, paradoxalement, Ceux qui se sentent le plus faibles, des fois, c'est Dieu montre sa puissance et sa gloire au travers de personnes qui sont comme totalement, parfois, ils se pensent inutiles. Dieu dit, c'est exactement avec toi que je vais faire une différence parce que c'est pas ta force, c'est ma force en toi. C'est pas à propos de tes capacités, c'est à propos de ce que moi, je veux faire à travers toi. Combien peuvent applaudir que Dieu se sert de nous pour faire une différence autour de nous? Je voudrais qu'on regarde un texte des évangiles, dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Si tu as ta Bible aujourd'hui, prends-la, ouvre-la. Et je conseille à tous d'avoir un stylo, un surligneur. Moi, un jour, quand on m'avait dit que quelqu'un écrivait dans sa Bible, c'était comme un blasphème pour moi. Mais au fur et à mesure que j'avance, je me dis, cette Bible-là doit montrer un petit peu quel cheminement de vie je fais. Des fois, j'ai des questions, je l'écris, je surligne. C'est tellement fort parce que quand je reviens, il y a plein de couleurs, il y a plein de dates, il y a plein de choses que Dieu m'a révélées. Et je pense qu'on a le droit d'écrire dans la Bible, OK? Si ça choque quelqu'un aujourd'hui, ben, écris. Et si à un moment donné, tu te dis, j'ai même plus de place pour écrire, on t'en donnera une nouvelle, OK? Donc, que vous puissiez écrire, prendre des notes si vous avez des choses autour de vous, parce que je crois que Dieu a une parole pour nous et il veut nous réveiller ce matin. Est-ce que vous êtes endormis? Même si vous l'étiez, Dieu veut vous réveiller aujourd'hui. On va regarder Marc au chapitre 6, versets 30 à 42, comment Dieu ne veut pas se passer de nous et comment nous, avec, à l'église locale, Nouvelle Ville à Prairie, on ne peut pas se passer de toi. On lit ensemble. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart. Dans un endroit désert, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Verset 35, « Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Et à ce moment-là, une foule de plusieurs milliers de personnes est complètement, miraculeusement nourrie par les 5 pains et les 2 poissons. Combien connaissent cette histoire? Elle est dans plusieurs évangiles et il y a quelque chose de fort parce que les révélations que Dieu nous montre au travers de ce texte, et encore cette semaine quand je l'étudiais, j'ai entendu ce texte des milliers de fois. J'ai grandi à l'église et la multiplication des pains est quelque chose qu'on connaît. Même des gens qui sont jamais venus à l'église connaissent un petit peu le côté de la multiplication des pains. C'est comme devenu une histoire un peu avec un sens caché. Mais réellement, Jésus, à ce moment-là, a fait un miracle et il montre à ses disciples qu'il ne veut pas se passer d'eux et qu'il a besoin d'eux. Et je crois réellement que Dieu va nous parler aujourd'hui parce qu'on ne peut pas se passer de toi et Dieu ne veut pas se passer de moi. On va regarder ensemble la première vérité, c'est pourquoi on ne peut pas se passer de toi, car les besoins sont grands. Jésus arrive alors qu'il est dans son ministère, il enseigne, il fait des miracles. Dès que Jésus est quelque part, il se passe quelque chose de miraculeux. Les gens commencent à le dire, il y a les foules qui suivent Jésus. Et dans ce texte-là, on voit que même si Jésus part d'une autre ville pour prendre une barque et s'en aller ailleurs, les foules le suivent. Elles le voient, elles disent « Ok, il doit aller par là, on va faire le tour du lac, on va faire le tour de la mer pour aller le chercher. Il faut qu'on soit là où Jésus est parce qu'il se passe toujours quelque chose. » Il y a des miracles qui prennent place. Et Jésus, alors qu'il descend de cette barque, le texte nous dit qu'il voit la grande foule. Peut-être 10, 15 000 personnes. Et à ce moment-là, Jésus est ému de compassion. Ému de compassion parce qu'il dit, c'est comme si ce sont des brebis sans berger. À l'époque, Jésus prenait des images de l'époque. Les gens, il y avait beaucoup de bergers qui prenaient soin de troupeaux, de moutons. Aujourd'hui, on voit plus ça trop à la prairie. On voit plus ça trop à Longueuil ou à Montréal, des troupeaux avec des brebis. Est-ce que ça, quelqu'un a déjà vu une brebis dans la dernière année? Non. Mais il y a comme quelque chose où Jésus est en train de dire, voici. À l'époque, les bergers prenaient soin de leurs troupeaux. Peu importe le nombre de brebis que tu avais, que t'en aies 10 ou que t'en aies 1000, il fallait un berger pour prendre soin du troupeau. Pourquoi? Parce qu'il fallait l'emmener d'un endroit à un autre pour manger l'herbe, pour brouter. Il fallait que les brebis mangent. Mais aussi, il fallait que le berger puisse être attentif pour protéger les brebis. Et alors que Jésus, il voit cette foule, il voit les besoins qui sont grands parce que c'est une foule qui cherche une vérité, qui cherche à manger quelque chose de spirituel, qui est affamé spirituellement, mais qu'il n'a pas de berger, il n'y a personne pour les conduire. Jésus voit à ce moment-là une foule qui recherche quelque chose de plus profond que ce que la caste religieuse à l'époque leur proposait. À cette époque-là, il y avait des castes religieuses et même les pharisiens qui étaient censés prendre soin, enseigner le peuple, eux faisaient plus parfois essayer de se servir des gens, essayer d'oppresser, essayer de se servir même financièrement pour être eux les plus hauts, alors que le peuple qui, eux, avait faim d'une vérité, avait faim de compassion, avait faim d'amour, avait faim de la parole, ils étaient pas rassasiés. Jésus les voit en disant, ce monde-là a des besoins. Et il n'y a personne pour répondre à leurs besoins. Jésus est ému de compassion devant une grande foule. C'est fort parce que le texte nous dit qu'il vit une grande foule et il fut ému de compassion. Jésus n'est pas ému par la foule. Jésus est ému par la compassion pour chacune des personnes dans la foule. C'est pour ça qu'on croit que l'Église, elle peut grandir de foule en foule. On était quelques centaines ici, on est plus de 700 maintenant les dimanches. Jésus ne voit jamais juste une foule, il voit chaque cœur, chaque situation ici. Combien sont reconnaissants? Parce que Dieu ne voit pas juste que tu es perdu dans une grande foule. Au contraire, il voit ton cœur, il voit ta situation. Pour certains, aujourd'hui, c'est un dimanche comme les autres et on vient célébrer, on est heureux de se voir. Pour d'autres, Dieu sait exactement que c'est un dimanche, peut-être dans la pire saison de ta vie, où tu viens d'apprendre une nouvelle incroyablement tragique cette semaine et tu viens ici comme brisé. Et tu attends juste quelque chose, comme si tu attendais que Dieu vienne se révéler à toi. Comme Jésus était ému de compassion en voyant la foule, Jésus est toujours, encore aujourd'hui, ému de compassion en nous voyant. Parce qu'il ne voit pas juste des personnes qui ont une belle face, qui s'habillent bien en disant « Regarde, on veut bien paraître. » Jésus voit au fond du cœur. Et si tu vis une situation difficile en ce moment, Dieu dit, je te comprends et je veux être la solution à ton problème. Combien le croient? On n'est pas ici juste pour s'impressionner les uns les autres. Au contraire, on est ici juste pour dire, Seigneur, on a besoin de toi. Et celui qui est ici sur le stage et qui vous parle a autant besoin de Jésus que toi qui es au fond, qui vient d'arriver. Parce que nous avons tous besoin de grâce et Jésus est là. Il nous voit pas comme une foule, il nous voit chacune avec nos situations, avec nos histoires et il est ému de compassion à notre quand il nous regarde. Les gens étaient désabusés par les castes religieuses. Et les gens disaient, quand Jésus était là, aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme. Aucun homme n'a eu d'égard envers nous comme il y a personne qui est comme lui. Quand Jésus était là, Jésus faisait des miracles, Jésus enseignait une bonne nouvelle. Au lieu de montrer que la religion oppressait, au contraire, il disait non, Dieu s'est approché de même celui qui est rejeté. Même celui qui ne pouvait pas aller adorer au temple, adorer à la synagogue, Jésus allait vers lui. Il allait vers les gens qui étaient brisés parce que c'était lui le réparateur. C'est ça le message que nous, à l'Église ici, on proclame. C'est que Dieu vient, même si toi tu es brisé, même si toi tu as été désabusé par les castes religieuses, même si toi tu te dis « je suis complètement brisé en ce moment dans ma vie », Jésus vient te voir, il vient à ta rencontre. Tu n'as même pas besoin de venir à lui, il est déjà venu à toi. Mais il veut que tu puisses le voir. Et on cherche, cette foule-là, chercher Jésus. L'amour de Jésus pour l'humanité est immense. L'amour de Jésus pour toi est immense. Les bergers prenez soin. Il y avait une protection au niveau de leur troupeau. Jésus voit cette foule comme des brebis sans berger. Pas de protection. Des gens, il pouvait y avoir des loups qui venaient, des mensonges qui arrivaient. Il y avait personne pour les protéger. Jésus avait un cœur pour les foules parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. On a besoin ici à l'église, puis dans chaque église locale. C'est pour ça qu'on croit réellement, on est passionné par l'église locale. Parce que c'est la lumière du monde, on proclame Jésus qui, lui, est la réponse pour l'humanité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Peu importe ce que tu vis, quand tu viens à Jésus, Jésus comble tes besoins. L'église locale est ici et on a besoin de piliers. Autant que nous sommes ici, nous avons besoin d'être solidifiés en Dieu et de pouvoir soutenir les autres, de pouvoir encourager, de pouvoir servir, de pouvoir donner, de pouvoir pleurer avec celui qui pleure, de pouvoir relever celui qui est fatigué aujourd'hui. Nous cherchons, Jésus cherche des bergers, des gens qui vont prendre soin les uns des autres. C'est pour ça qu'on est passionné au niveau des groupes. C'est pour ça qu'on est passionné au niveau de « veux-tu servir avec nous ?» On ne peut pas se passer de toi parce qu'ensemble, on va faire une différence. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Vous avez déjà entendu cette citation ? Au plus on est ensemble, quand à un moment donné, tu es fatigué, quelqu'un peut te relever et te donner de la force, peut t'encourager. Aujourd'hui, dans notre société, on appelle ça la grande démission. Je ne sais pas si vous lisez des articles depuis quelques mois. Le post-pandémie a montré qu'il y a beaucoup de monde dans leur situation professionnelle ont comme démissionné. On dit je veux changer d'emploi. Et en ce moment, si vous allez n'importe où dans n'importe quel magasin, c'est marqué en gros on embauche ici. Viens quand tu veux, où tu veux, à quel salaire tu veux, on embauche s'il te plaît, on a besoin. C'est vraiment désespérant quasiment. Autant désespérant que McDo a même sorti une pub, et on la voit ici, c'est « Viens nous passer en entrevue, on embauche ». C'est pas moi qui te passe en entrevue, c'est toi qui viens nous passer en entrevue parce qu'on va t'expliquer pourquoi c'est bon que tu viennes pour nous travailler. Je fais pas de pub pour McDo, vous avez compris le point. Mais le monde est tellement désespéré d'avoir des bons employés, des choses que, je vous le dis, j'ai jamais entendu, et puis avec le staff, on en riait, mais c'est un peu désespérant. On n'a jamais autant vécu de mauvaises situations avec le service à la clientèle des restaurants, vous êtes d'accord ou pas? En 2019, tout allait bien, on arrivait, le monde servait, le monde était heureux, le monde souriait, il y avait vraiment un service incroyable, partout où tu allais, même les endroits où tu n'avais pas de type. Mais aujourd'hui, même si tu mets 40% de type, mais il y a quand même... On peut pas aller plus vite. Ça fait 2 heures que j'attends ma pizza, s'il vous plaît. Ouais, ben regarde, si jamais tu veux, tu peux aller dans le four et puis vas-y, viens nous aider. Je voulais pas vous offusquer, je fais juste dire que 2 heures, c'est un petit peu... Les prix ont augmenté, le service a diminué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a tous vécu... ouais. Il y a quelque chose de fort parce que la société a comme changé. Tout le monde recherche des bons employés, un bon service, mais on dirait qu'on ne le trouve plus nulle part. Et c'est pas genre, je suis alarmiste, mais je vous le dis, à chaque fois que je rentre à l'église et puis qu'il y a des gens qui me sourient, des gens bénévoles qui sont là par conviction, avec un désir de servir les gens avec excellence, ça fait toute la différence. Est-ce qu'on peut remercier chaque bénévole qui fait de ce lieu ici un lieu de joie, un lieu encourageant? C'est incroyable parce que même là où tu peux être payé, les gens se disent, garde, le service à la clientèle descend alors que même les salaires ont essayé d'augmenter. On a une recherche d'un bon service et même si tu payes le gros prix, tu n'arrives pas à le trouver. Ce qui est impressionnant avec l'Église, c'est que nous avons tous des bénévoles ici. On a fait une matinée de célébration hier pour des bénévoles. Les listes de bénévoles, c'était quasiment 150 à 200 bénévoles. Hier, on était peut-être 130, 150, on était là. Il y avait quelque chose de fort de voir toutes les personnes qui étaient là, bénévoles, qui ont un emploi à la semaine, qui sont peut-être pré-retraite, retraite. Il y avait des ados, il y avait des jeunes adultes, des gens qui sont à l'université. Ils ont un gros emploi du temps, mais ils viennent servir l'Église parce qu'ils se disent, le service qu'on donne, c'est pas juste, est-ce que je suis bien payé? T'es pas payé. Est-ce que je peux avoir mes dimanches off? Non, on travaille le dimanche, c'est l'Église. Est-ce que je peux... En fait, ça va à l'encontre de tout. Mais je vous le dis, le témoignage des gens qui viennent parfois pour la première fois disent « Est-ce que tous ceux qui servent là ici sont employés, sont temps partiel ?» Non, ce sont des bénévoles. Ah, mais le niveau de service, le niveau d'accueil, le niveau de joie, le niveau de vibe pour les plus jeunes, comme « Wow, le vibe est cool quand t'arrives ici, il y a que les enfants, c'est comme, il y a des mascottes, tu passes 2 heures dans une mascotte, t'as envie de te dire « Regarde, c'est fini, j'ai tellement chaud. » Mais ils refont, ils se disent « Ouais, je veux être bénévole pour le faire. » Pas le jour même, mais le lundi, ils sont comme « Yes, je veux recommencer. » Le fait de servir, ils sont tellement heureux et on a un service excellent alors qu'on paye même pas les gens. On pourrait pas, c'est impossible. Mais ça, c'est fort parce que le corps ensemble, l'Église ensemble, répond aux besoins. Il y a un besoin, il y a quelqu'un qui se lève. Il y a besoin d'un service, je vais le faire. Il y a des personnes ici qui se disent, oh, si jamais il y a quelqu'un qui habite dans mon coin, je peux le prendre, je peux faire du covoiturage, je peux faire du livre. Il y a quelque chose de fort quand l'Église se met en mouvement. Parce que le service, on n'attend pas d'être payé, d'avoir des gens dans le côté où moi, je vais travailler pour toi. Pourquoi je devrais travailler pour toi? Dis-moi un petit peu pourquoi je devrais travailler pour toi. Aujourd'hui, on n'a rien à offrir d'autre que viens servir. Dieu veut qu'on serve les autres parce que Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Et quand tu sers les autres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. S'il y a des gens qui le croient, est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui sert de nous? Mais souvent, on entend quand on dit, regarde, est-ce que tu veux sortir avec, servir avec moi? Sortir avec moi. Je suis en train de penser à renouveler mes vœux avec Sophie. Je suis quand même... 14 ans de mariage, 15 ans l'année prochaine. Hein? Yeah. Alors, quand on dit, est-ce que tu veux venir servir avec moi? Des fois, des gens ils disent, non, mais regarde, on n'a pas besoin de moi. Dans une grande église comme ça, il n'y a pas besoin de moi, tu sais. Tout est déjà comblé et tout ça, c'est vrai. Hein? 150 bénévoles, 200 quasiment en prenant tous les services. Ça fait beaucoup de monde pour servir. Mais je vous le dis, on doublerait les effectifs de service, on aurait encore des choses à accomplir. On aurait encore des ministères à ouvrir, des choses à développer. Vous savez, si chaque personne, si chaque chrétien qui a compris que j'ai été sauvé par Dieu, pour servir l'humanité, pour servir Dieu, pour apporter sa lumière, que je puisse briller pour sa lumière. Si chacun comprenait que le service fait partie de la mission chrétienne, imaginez chaque église locale au Québec. Ça changerait tout. Parce que 200 bénévoles pour une assemblée de 700, imaginez si peut-être on montait à 400, on montait à 500, on montait à 700. Chaque personne ici dirait, regarde, si je peux faire quelque chose pour aider, je veux le faire. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire, tout ce qu'on pourrait accomplir. Imaginez si chaque personne chrétienne comprend le côté du « le salut a été donné par grâce, mais je veux contribuer avec ce que je peux à l'œuvre de Dieu. » Le Québec changerait complètement. Il y a quelque chose de fort dans ce texte parce que Jésus nous montre qu'alors que lui, il voit une foule, il y a un grand besoin et il y a une équipe juste de 12 pour faire le travail. Mais Jésus, il a choisi de se servir des 12 pour accomplir, pour distribuer le miracle que Jésus a fait. Société de déresponsabilisation. On est en ce moment dans une société de déresponsabilisation où tout le monde dit, c'est pas à moi de le faire, c'est au gouvernement de le faire. Et dans toutes les élections, vous voyez en ce moment-là, les débats et tout ça, c'est comme, quel parti promet les choses que, oui, on va s'en occuper, on va faire, on va donner plus d'argent, mais à un moment donné, aucun parti, puis je fais pas de politique, il faut qu'on aille voter, réellement. C'est très, très, très spirituel de voter. Et on prend pas parti pour aucun parti, vous me comprenez? Mais il y a quelque chose de fort que si on met tous nos espoirs dans la politique, on va être déçu. La politique doit servir à quelque chose. Merci Seigneur pour des autorités, pour les gouvernements, pour un pays où on peut avoir des droits, où on peut avoir une protection. Réellement, c'est une grâce de Dieu que nous vivons dans un pays organisé. Mais il y a quelque chose de fort si on croit que la politique va changer toute notre vie. Non, je crois que l'Église doit prendre une charge, doit faire une charge que seule l'Église peut faire. On ne peut pas demander au gouvernement de faire quelque chose que Dieu a donné la mission à l'Église de faire. Maintenant, ce n'est pas l'Église en disant, bah oui, c'est le staff. Non, on est genre 6, 7, 8, maximum 10, on essaye de... Mais imaginez à 700 ce qu'on pourrait faire. Imaginez si tout le monde disait, on va mettre la main à la pâte, s'il y a quelque chose à faire, on va le faire. Si je peux donner 2 dimanches par mois à la première réunion ou à la deuxième réunion, ou regarde, si jamais tu veux, j'ai une réunion, que je peux, j'ai un dimanche où je peux te donner les 2 réunions. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait servir. Comment on pourrait continuer les vendredis avec les ados, les samedis dans des conférences ou avec les NV Juniors qui font des activités parfois, les dimanches à 2 réunions. Imaginez ce qu'on pourrait faire. Nouvelle Vie se multiplie en ce moment sur 7 sites et on croit que c'est juste le début. Parce que des gens se lèvent et disent, s'il y a une église locale à bâtir pour briller, moi je vais en faire partie. Amen. Pas seulement pour venir et s'asseoir, non, pour se lever et faire une différence. Dis, ça commence avec moi. Dieu ne peut pas se passer de nous. Il pourrait par contre, mais il a décidé d'être partenaire avec nous. Jésus a fait le miracle et il a dit à ses disciples, distribuez-les. Jésus n'a pas distribué la multiplication qu'il avait fait. Vous avez vu le texte? Jésus a fait, il a multiplié. Il y a lui seul qui pouvait faire le miracle. Même si toute la foule des milliers de personnes s'était mis ensemble pour essayer de... Ça n'aurait pas fonctionné. Jésus seul est la réponse à nos besoins. Par contre, nous sommes partenaires avec lui pour distribuer la réponse à toute cette foule. Jésus a choisi de se servir de ses disciples pour distribuer le miracle qu'il venait de faire. Ça commence par moi, ça commence par toi. Es-tu, Es-tu conscient que Dieu aujourd'hui voit dans la prairie une grande foule et il est ému de compassion? Il voit les gens qui sont comme justement des brebis sans berger. Des gens qui recherchent une vérité sans même savoir où. C'est pour ça qu'ils essayent tout et n'importe quoi. À chaque baptême, je suis émerveillé de voir les gens qui disent je viens des années où j'ai tout essayé dans le spirituel, dans l'ésotérisme, dans le truc extrêmement des fois dark. Mais quand j'ai découvert Jésus, ça a fait toute la différence. Mais imaginez si on se disait, Seigneur, sers-toi de nous justement pour continuer à propager ce message. Donne-nous de pouvoir distribuer ta lumière. Parce que tu es la lumière, tu nous remplis et tu nous demandes, nous, de la distribuer autour de nous. Imaginez la prairie serait sauvée. Imaginez si on pouvait aujourd'hui comprendre que dans toutes les églises locales au Québec, dans la francophonie, on se levait, on disait, Seigneur, donne-nous de réellement distribuer comme tu le veux, avec ta manière de penser. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Chacun, on est unique. Chacun, Dieu nous a donné des dons, des talents. Si chacun mettait ses dons et ses talents au service de Dieu, ça changerait tout. Ça changerait tout. Pourquoi pas le faire avec toi? Des fois, il y en a qui disent, non, mais d'autres le feront mieux que moi. D'autres le feront à ma place. Vous savez, hier, on a célébré le bénévole le plus jeune qui sert avec nous à Nouvelle Vie, La Prairie. Je pense qu'il a 13-14 ans. Quelqu'un qui est avec nous, et puis le dimanche, il vient, et puis au lieu juste de s'asseoir, il se dit non, je veux servir. Alors, il y a Pouponnière, NV Junior, des choses avec lesquelles il peut servir. Et on a aussi célébré la personne la plus âgée, le prix senior. Des gens qui pourraient dire, regarde, j'ai servi toute ma vie, maintenant, laisse-moi tranquille, je veux vraiment m'asseoir et profiter. Non! Il dit, garde, j'ai encore de la vigueur, et puis j'aurai l'éternité pour me reposer. Mais en ce moment-là, tout ce que je peux faire, donne-moi, et puis avec mes capacités, je veux le faire. Et réellement, entre les deux, là, la motivation est la même. Il y a des décennies qui les séparent, mais la motivation est la même. C'est pas forcément, oh, mais est-ce que j'ai la force pour courir partout? Non, si tu peux pas courir, c'est pas grave. On va te placer à un endroit où tu vas juste servir, où tu vas juste sourire. Mais si tu veux servir, Dieu veut se servir de toi. Il ne veut pas se passer de toi et on ne peut pas se passer de toi. Est-ce qu'on peut remercier Dieu qui veut se servir de nous? Beaucoup de besoins, mais pas assez de personnes qui se lèvent. On ne peut pas se passer de toi. Et mon deuxième point, c'est car servir ensemble est un privilège. Servir ensemble est un privilège. On sert, souvent dans notre société, on veut pouvoir servir ceux qui peuvent nous rendre. On veut pouvoir être utile à ceux qui peuvent nous faire monter les marches. Il y avait une expérience qui avait été faite où quelqu'un de très bien nanti, quelqu'un comme une star, par exemple, arriver et demander à quelqu'un, « Oh, peux-tu me passer 2-3 dollars parce que pour mon parking, j'ai pas les sous. » Les gens étaient beaucoup plus à l'aise et hyper reconnaissants de pouvoir donner à une célébrité qui était comme quasiment multimillionnaire que quand la même expérience avec les mêmes personnes, un itinérant venait en disant, « Est-ce que vous pourriez me donner juste 2-3 dollars pour que j'achète un... » Il disait, « Non, j'ai pas le temps pour ça. » On veut donner à ceux par qui on est impressionné qui pourraient peut-être nous le rendre. Hey, je pourrais peut-être prendre un selfie avec Brad Pitt si jamais je lui paye son stationnement. Mais ce n'est pas très glamour de donner à un itinérant, parce qu'il ne peut pas me le rendre. Puis regarde, 2-3 dollars, qu'est-ce que je peux faire avec ça? À Tim Hortons, là, ici, je n'en ai plus. Hein. Imaginez, si en tant que chrétien, on comprenait réellement l'image de Christ qui a dit, je ne viens pas pour être servi, je viens pour servir. Donne à celui qui ne peut jamais te le rendre. Viens servir celui qui ne peut pas t'aider à monter les marches, qui ne va pas être impressionné ou par toi. Fais quelque chose, même dans l'ombre, mais qui va briller pour le royaume de Dieu. Fais pas quelque chose pour dire, oh, je veux être vu, je veux être applaudi, je veux être sous les projecteurs. Non. C'est pas pour toi que tu sers, c'est pour les autres. C'est pour ça que ça s'appelle le service. Tu viens pas pour te servir des autres, tu viens pour servir les autres. Imaginez, servir ensemble est un privilège. Imaginez les disciples à ce moment-là. Alors qu'ils sont en train d'assister à une foule, Jésus est en train de prêcher la bonne nouvelle. Il y a quelque chose de fort qui se passe. Jésus enseignait, Jésus annonçait la bonne nouvelle et Jésus faisait des miracles. Il y avait des gens qui étaient malades, qui étaient guéris. Et à un moment donné, il y a un besoin, tout le monde doit manger. Et là, Jésus commence à faire un miracle devant leurs yeux. Imaginez d'être au premier rang d'un miracle de Jésus. 5 pains, 2 poissons, ça devait tenir dans des mains, là, dans un panier. Il le donne. Jésus commence à faire un miracle. Et là, il y a des paniers qui commencent à se distribuer. Mais les paniers ne se vident pas. On en avait juste un. Et là, à un moment donné, on ne sait pas comment ça a pris place. Mais les disciples étaient là et ont vu le miracle devant leurs yeux. À se dire, être au premier rang devant un miracle, C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous êtes conscient de se dire, il y a une foule, il y a une pression. Les disciples disent, on n'a pas assez, c'est insuffisant ce qu'on a, mais ils ont faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus fait un miracle devant leurs yeux. Être au premier rang d'un miracle, c'est quelque chose de privilégié, n'est-ce pas? Vous êtes au premier rang du miracle de Dieu est en train de faire ici, au Québec. Combien d'églises prient depuis des décennies? Vraiment. Combien d'articles j'ai lus? Les églises se vident, la foi au Québec n'est plus, c'est moyenâgeux, c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas vrai. En tout cas, pas chez nous. Et c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, vraiment. Vraiment. Et j'apportais un partage au ressourcement spirituel des leaders, pasteurs, Nouvelle Vie. Et j'expliquais, il y a des églises qui prient autant que nous, il y a des églises qui travaillent autant que nous, mais qui n'ont pas le fruit que nous avons. Les foules viennent. C'est quelque chose de fort. Pourquoi? C'est parce qu'on croit réellement, et peut-être c'est ça qui différencie, c'est qu'on croit que chaque personne ici a une part à prendre. C'est pas juste venez et recevez. Venez, recevez, il y a une saison, même Jésus, il a dit, venez, on va se retirer à l'écart, on va se reposer parce qu'on est tellement partout qu'à un moment donné, on va se brûler. Jésus a pris le temps de faire reposer ses disciples parce qu'il savait qu'il y avait une grande moisson qui arrivait. Je pense que dans les 3 dernières années, on est resté pas mal assis chez nous. On a pas mal eu le temps de se reposer, vrai ou pas? Même un peu trop. Mais je pense que Dieu nous préparait pour cette moisson en ce moment. Et c'est pour ça que nous croyons à Nouvelle Vie, que c'est pas juste laissez-nous faire le staff, on peut tout faire, on va tout faire, on est les hommes orchestres, on va tout faire ce qu'il faut. Non. On a besoin de gens dans le stationnement, on a besoin de gens dans la sécurité, des gens aux enfants, des gens. Est-ce que j'aimerais le faire? Oui, si je peux le faire, je vais le faire. Mais en même temps, je crois que Dieu nous a appelés à quelque chose de spécifique. Et chacun, en fonction de nos dons, nos saisons, nos habiletés, notre expérience, Dieu nous place pour que son corps, c'est pas juste le bâtiment, c'est des pierres ensemble, plus belles, plus brillantes, d'autres peut-être dans l'ombre, d'autres peut-être bien solides, d'autres des petites, mais tout ensemble, c'est ça qui fait l'Église. Nous sommes les pierres vivant et Dieu veut se servir de nous pour bâtir son royaume. Amen. Nous croyons réellement à Nouvelle Vie que c'est pas juste laissez-nous faire, on sait le faire. Au contraire, on ne peut pas le faire sans vous. On ne peut pas se passer de toi. On ne veut pas se passer de toi parce que tout le monde est appelé de Dieu pour être sauvé, pour passer de l'ombre à la lumière, pour passer de la mort à la vie, ensuite pour partager la vie. Ensuite, pour servir le corps, pour servir notre église locale, pour servir la communauté, pour faire en sorte que au plus nous sommes, au plus on aura un impact dans cette ville où on va pouvoir briller encore plus, faire de plus en plus de services pour les gens autour. Dieu ne veut pas seulement que tu viennes assister au match de soccer dans le stade. Certains croient que, oh wow, regarde, j'ai des sièges VIP. Dieu te dit, tu peux être assis au siège VIP et regarder le match pendant toute la saison, ça serait génial. Mais Dieu te dit, hey, si jamais à un moment donné tu veux, tu peux venir et jouer avec nous sur le terrain. Avez-vous déjà été dans un stade? C'est énorme, c'est wow, les lumières, c'est quelque chose de fort. Est-ce que tu comprends que les sièges sont là? C'est génial. On pourrait bâtir des stades encore plus grands, mais à un moment donné, sur la pelouse, il faut qu'il y ait du monde qui joue. Et c'est pas juste une personne qui joue à l'église sur la... Non, au contraire, on peut tous être en train de jouer. On peut regarder, c'est génial, oui, mais on peut participer et être sur le terrain pour faire une différence, pour marquer des buts pour Dieu, pour faire en sorte que le message se rende à encore plus de monde, pour créer d'autres services, pour accueillir encore plus de familles, pour ouvrir des locaux, pour servir encore plus d'enfants. Parce que Dieu nous appelle à faire une différence. Passe de spectateur à joueur. J'aime cette citation qui dit « Ensemble, nous pouvons résoudre tous les problèmes. Seuls, nous ne pouvons en résoudre que très peu. » Ensemble, c'est ça qui fait notre force. Si chacun met la main à la pâte. Ils ont distribué le miracle. Les disciples ont été ceux qui ont distribué le miracle. Jésus a mis en place, avant le miracle, il a mis en place une structure. Et c'est fort parce que quand je lisais ce texte, J'ai lu quelque chose que je n'avais jamais lu. Le texte au verset 39 dit « Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. » En fait, Jésus a mis en place un système logistique très terre à terre. Faites-les asseoir par groupe, rangées de 100, rangées de 50. Jésus a mis en place un système logistique très terre à terre avant de faire un miracle très surnaturel. Ce qui nous montre que la logique fonctionne aussi avec la foi. Dieu veut que nous puissions être structurés, être stratégiques dans notre manière pour accueillir le miracle et bien le distribuer. Jésus a mis en place un côté où il n'a pas juste dit « Oh, il y a une foule ». c'est tout désorganisé. Non, non, Jésus a mis en place un ordre, une structure. Il a demandé à des personnes de faire des tâches spécifiques pour dire voici l'ordre est mis, le miracle peut prendre place et il va bien être distribué. Imaginez, vous avez déjà vu des vidéos où quelqu'un ouvre un sachet de nourriture à des animaux qui, sans aucun ordre, viennent et prennent tout. Puis c'est comme un chaos complet, puis il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Jésus a dit des brebis sans berger. Il faut que, avant que le miracle prenne place, on va faire une structure pour que chaque personne reçoive ce qu'il doit recevoir. Pourquoi il a mis en place quelque chose? Parce que sa facilité de service, des groupes avec des rangées, sa facilité de service, ça assurait que tous puissent avoir leur part et ça permettait de compter le nombre exact de personnes. C'est pour ça que dans les différents évangiles, ils disent c'est plus de 5000 hommes. Ça comptait pas les femmes et les enfants à cette époque-là. Ils disent peut-être 10 à 15 000 personnes, cette foule représentée. Mais Jésus, avant de faire le miracle, il a mis la structure. Je crois réellement qu'il y a un point et une vérité pour notre Église ici. À faire que nous ne croyons pas à l'Église désorganisée. Non. Nous croyons clairement que l'Église doit être organisée. Parce que la première chose que l'Esprit fait dans la Bible, dans Genèse, le chaos est là et l'Esprit vient et il met un ordre. Je crois que l'Église doit être ordonnée. Et ordonnée ne veut pas dire « Ah, on éteint l'Esprit ». Au contraire, on recherche de plus en plus l'Esprit de Dieu. On ne fait tout ce qu'on fait que par l'Esprit de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Les disciples auraient pu avoir une stratégie incroyable. Si Jésus ne fait pas le miracle, il n'y a rien à distribuer. Il y a quelque chose de fort dans ce texte qui nous montre qu'au plus nous avons une structure pour accueillir, nous pourrons distribuer. Une maison qui est prête à recevoir des invités en reçoit. Ça vous est déjà arrivé? Tu nettoies toute ta maison, tu es comme pris d'un 2 heures, tu te dis « je vais tout faire, tu nettoies ». Et une fois que tu as fini, tu te dis « qui je pourrais inviter ?» Tu sors de l'église et puis là, tu es comme « oh ben venez à la maison, la maison est prête ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si vous me dites non, c'est le moment de reprendre ces bonnes habitudes-là. Communion fraternelle, ok, on est ensemble. Mais quand ta maison est prête à recevoir des invités, tu es game d'inviter des gens. Tu dis, ils peuvent venir et j'aurais pas honte de voir. Des fois, tu as envie d'inviter des gens puis tu te dis, non, je peux pas. On veut que l'église ici soit belle. On veut que l'église soit prête. On veut que quand vous arriviez, ça sente bon. On veut que le stationnement, les gens disent, non, viens ici, tu vas pas tourner pendant 10 minutes. J'ai préparé une place pour toi. On veut que quand tu arrives ici, les enfants, ils aient le numéro et la sécurité vérifiée. Voilà, il y a tout un ordre qui est fait parce qu'au plus de monde vient ici, au mieux on veut les servir. Si ils sont importants pour Dieu, ils sont importants pour nous. On ne veut pas se passer de toi, Dieu ne veut pas se passer de toi. Et on ne veut pas se passer de toi parce que Dieu t'attend, Dieu veut se servir de toi, Dieu veut te révéler que tu peux briller pour sa lumière. Il veut passer à travers toi pour que tu distribues son miracle. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui fait toutes choses merveilleuses? Alors que j'invite les musiciens à prendre place, alors que Jésus a mis en place une structure avant de faire le miracle, ça me fait rappeler exactement la même chose que Jéthro, le beau-père de Moïse, avait dit, quand Moïse était là pour essayer de servir, de faire du counseling avec tout le peuple. Et puis, il était débordé, il ne pouvait pas. Combien de leaders, combien parfois d'églises sont débordées parce que tout repose sur eux? Je crois que Jésus montrait le côté où je fais le miracle, je vous le donne et on le distribue dans une structure qui va être... Dieu ne veut pas, il pourrait le faire tout seul. Dieu est tout puissant, il pourrait en un claquement de doigts résoudre tout. Mais il a choisi de le faire au travers de nous pour que nous puissions prendre part à une gloire pour la gloire de Dieu. Nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu. Quel privilège! Les besoins sont grands, mais il nous donne de pouvoir y répondre. C'est fort quand tu te dis « je peux être partenaire avec Dieu pour annoncer sa bonne nouvelle ». Il n'a pas besoin de moi, mais il a décidé de venir ici sauver ma vie, ainsi que celle de tous ceux qui croient en lui. Jésus nous a sauvés alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Il a décidé de le faire par amour pour nous, par amour pour toi. Il te voyait, il était ému de compassion, c'est pour ça qu'il a traversé l'humanité pour changer de notre vie. Et ensuite, il ne nous dit pas, c'est bon, tu es sauvé, tu peux t'asseoir en attendant la vie éternelle. Non, il dit, maintenant, mon esprit en toi va faire que même si toi t'es faible, moi en toi, je suis fort. Et tu vas pouvoir accomplir des choses incroyables. Dieu veut se servir de nous pour distribuer son miracle. Jésus a fait asseoir les gens pour qu'ils reçoivent. Il y avait des gens qui avaient besoin de manger à ce moment-là. Et vous savez quoi? Les disciples n'étaient pas assis. Les disciples étaient debout, en train de distribuer. Et je pense que 12 disciples à distribuer pour une foule de 15 000 personnes, ça n'a pas marché. les disciples ont dû passer en disant, hey, « Jean-Marc, peux-tu venir avec moi ? Hey, s'il te plaît, Johanna, peux-tu te lever ? Tiens, je te donne un panier, je te connais, toi, on sait que je peux compter sur toi. » Ils ont dû, eux, mettre en place une délégation. Réellement, logistiquement, même si jamais on est le plus conservateur, il y avait 5000 personnes sur place, à 12, on ne peut pas. Demandez aux gens de la communion quand ils distribuent. On est juste 700, on a besoin d'une équipe de plus d'une dizaine. Juste pour que ça aille vite et que ça soit bien. À ce moment-là, les disciples ont dû se dire, il faut qu'on prenne des gens avec nous pour nous aider à accomplir l'œuvre que Dieu vient de faire. Il y a un miracle puissant qui vient d'être là, mais il faut qu'on le distribue. Et alors que le texte commence en disant que les disciples étaient tellement, tellement occupés à faire des choses, ils n'avaient même pas le temps de manger. C'est fort le texte parce qu'ils nous disent que les disciples, à la fin, une fois qu'ils ont distribué tout, le miracle a pris place, les foules maintenant sont rentrées chez eux, rassasiés du pain de vie que Jésus leur a donné par sa parole et rassasiés du pain pour leur corps. Le texte nous dit qu'ils sont repartis avec 12 paniers pleins. Les disciples qui n'avaient pas eu le temps de manger, peut-être qu'on a même pas le temps de rien faire, Jésus vient les faire reposer. Ensuite, il leur dit, il y a une grande moisson là, il y a quelque chose à distribuer. Mais quand on aura fini de le faire, on aura 12 paniers pleins. 12 disciples, 12 paniers pleins. Vous voyez le jeu? Les disciples ont été plus que rassasiés alors qu'ils avaient servi ceux qui avaient faim. Il y a demandé à tous ceux qui servent ici à l'église. C'est pas difficile. C'est pas difficile de le faire. Est-ce que c'est difficile de se lever le matin? Oui, comme vous et moi. Mais quand on vient servir et qu'on voit que, waouh, regarde, ce qu'on a accompli ensemble, ça a nourri une multitude. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qui ont pris une décision de se faire baptiser. Il y en a d'autres qui sont inscrits dans un groupe. Il y a quelque chose de puissant qui a pris place. Et ça a été avec vous et moi. On l'a fait ensemble. Imaginez le fait de la satisfaction. Il y a beaucoup de gens en ce moment, même des gens avec un travail incroyable, le travail de rêve, mais qui n'ont aucune satisfaction dans ce qu'ils font. Je crois qu'à servir Dieu, c'est la plus grande satisfaction parce qu'on sait que ce n'est pas juste quelque chose de charnel ou de temporel, c'est quelque chose d'éternel qu'on est en train de bâtir. C'est pour ça qu'on va donner corps, âme. On va pleurer, on va suer, on va faire tout ce qu'il faut pour que cette église brille parce qu'il y a des foules autour de nous. Jésus est ému de compassion, il veut nous donner cette même compassion et il veut faire le miracle et il est en train de le faire pour que nous puissions le distribuer et briller. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre part à ce miracle-là? Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Dans un monde où chacun cherche son propre intérêt, je crois que Dieu veut nous dire, regarde, aie mon cœur. Viens pas pour être servi, viens pas pour juste recevoir. Il y a un temps pour tout. Mais à un moment donné, tu as reçu pour pouvoir donner et partager. Lève-toi et fais une différence. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de toi parce que toi et moi, on peut faire une différence ensemble. C'est pour ça que Jésus, dans ce texte, il a fait le miracle. Il a mis une structure, les gens ont pu distribuer le miracle que Jésus a fait. C'est la même chose qu'il veut pour nous encore aujourd'hui. Et si tu veux prendre part à cela, si moi j'avais pu être là le jour de cette multiplication, au lieu de juste recevoir mon pain, réellement je crois que j'aurais sauté en disant, est-ce qu'il y a besoin pour prendre un panier, pour le distribuer? Parce que oui, je vais en recevoir un, mais je vais en distribuer. Quelle joie de pouvoir participer au miracle en disant, hé, quelqu'un a faim, regardez, Jésus vient de faire un miracle. Imaginez la joie des disciples quand ils ont fait cela. Ils avaient fait leur calcul, Jésus leur avait dit, combien de pain on a? Et les disciples arrivent en disant, mais avec toute la foule, combien d'argent on va mettre pour nourrir tout le monde? C'est comme inimaginable, c'est impensable, inatteignable par nos moyens. Et ensuite, ils disent, mais on a juste 5 pains et poissons, donc c'est insuffisant. Ils étaient en train de faire le constat que sans Jésus, c'est inatteignable les besoins et ce qu'on a, c'est insuffisant. Jésus dit, peu importe de quel angle tu regardes, le miracle m'appartient. Donne-moi ce que tu as. Et l'évangile nous dit, l'évangile de Jean nous dit que c'est un petit garçon qui avait juste un lunch, mais il l'a donné à Dieu. Et au travers de ce lunch-là, Dieu a nourri une multitude. Peu importe ce que tu as en ce moment. Peu importe si tu dis, regarde, je pourrais juste essayer peut-être de servir aux enfants. Je suis un enseignant, puis je peux peut-être donner la leçon. Je peux peut-être faire quelque chose ici s'il y a besoin. Je suis expert en informatique. Peut-être qu'il y a des besoins pour l'église. Peu importe ce que tu as entre les mains, Dieu veut le dire. Si toi, tout seul, tu essayes de nourrir une multitude, tu n'y arriveras pas. Mais ce que tu as, donne-le-moi. Je vais faire le miracle, je vais le multiplier. Et ensuite, tout le monde va pouvoir être béni par ce que tu as donné. Quel privilège de le faire. Mais il faut que l'Église puisse se lever. L'Église ne peut pas avancer si les chrétiens restent assis. Il y a des gens qui vont venir ici, on va leur faire une place. Il y a des gens ici, peut-être que vous êtes assis depuis trop longtemps. Chrétien sauvé, tu as tout compris. Et puis tu dis, maintenant je veux distribuer. Alors lève-toi et réponds à l'appel. On ne peut pas se passer de toi. On veut servir encore plus de monde. On veut servir encore plus de multitudes. Une famille à la fois, une personne à la fois. Pour que les personnes ici rentrent et ne se sentent pas comme une perdue dans la foule. Au contraire, qu'elles soient vues, qu'elles soient reconnues, qu'elles soient accueillies, qu'elles soient aimées, qu'elles soient conseillées, qu'on puisse les soutenir spirituellement. Et on a besoin de toi et de nous pour faire une différence. Alors l'appel aujourd'hui est simple. C'est que vous avez chacun reçu un formulaire sur votre siège. Et si en ce moment tu te dis, c'est vrai, moi dans ma saison, je veux participer au miracle que Dieu est en train de faire. Je veux mettre mon don, mon talent, mon service, puis je ne sais même pas encore quoi faire, mais s'il y a un besoin, je vais y répondre. Si tu veux distribuer le miracle qui est en train de se faire en ce moment, prends le formulaire. Et pendant quelques instants, alors qu'on va faire un chant ensemble, note ce que tu penses. Et même si tu dis, j'ai aucune idée, note quand même ton nom, tes coordonnées, et puis une personne de l'équipe va te contacter en disant qu'est-ce que tu peux faire, voici les besoins, est-ce que tu peux y répondre avec nous. Et à chaque fois qu'on a fait un message où on a appelé l'Église à se lever, à prendre une part, on a eu une récolte incroyable. Et je crois que Dieu est en train de monter une équipe, monter une structure pour que l'Église locale brille, pour accueillir le miracle, parce qu'il y a des foules qui sont sans berger. Il y a des foules qui recherchent la vérité sans savoir où. Et au plus ici, l'Église va être prête à recevoir des invités, au plus elle va en recevoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant alors que je vais terminer en priant pour vous? Jésus fait le miracle, mais il veut que ce soit toi qui le distribue. Je me souviens de cette fille qui était venue il y a quelques semaines me parler, puis elle me dit, pendant des années, je me suis senti seul, je me suis senti comme inutile, mauvaise estime de soi. Et puis alors que je la rencontre à la fin d'une réunion, ici, elle vient me voir dans le hall et puis elle me dit, je veux juste vous dire merci. Parce qu'ici, j'ai trouvé une maison où j'ai vraiment été accueilli, où je me suis senti aimé, je me suis senti apprécié, et même on m'a proposé de servir aux enfants. Et c'était quelque chose qui brûlait dans mon cœur, mais j'avais jamais assez de courage pour peut-être me proposer. J'avais pas beaucoup d'estime. Et alors qu'elle vient me dire ça, elle me dit maintenant, j'ai retrouvé une joie de vivre. Elle avait un sourire, elle était en train de dire je revis ici en servant les autres. Elle s'est sentie aimée, accueillie, et maintenant elle veut dire c'est moi qui vais accueillir et aimer les autres à ma capacité, avec ce que je peux donner. Mais tout ce que tu donnes dans les mains de Dieu, Dieu en fait un miracle. Alors aujourd'hui, peu importe depuis combien d'années tu es chrétien, peut-être même que tu viens d'être là depuis quelques mois et tu te dis maintenant c'est mon église ici, je voudrais me la servir, je voudrais m'impliquer ici. Inscris-toi sur le formulaire. On va te contacter, on va regarder ensemble comment tu peux faire, c'est quoi tes ressources, tes capacités. Peut-être tu vas dire c'est un dimanche par mois, peut-être c'est deux. Il n'y a aucun problème. Ce que tu peux donner, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà énormément parce que Dieu va faire le miracle au travers de ce que tu lui donnes. La structure, on veut la mettre en place parce qu'il y a des foules qui cherchent. Et Dieu veut qu'il soit partenaire avec toi pour faire de son église une maison refuge. Une maison qui va protéger les gens des mensonges, qui va donner la vérité, qui va nourrir les gens spirituellement. Parce qu'ici, c'est la maison de Dieu et il veut qu'on la prépare pour les gens qui vont venir. Seigneur, je te prie pour notre église, je te prie pour nous, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'un jour, on a été dans cette foule. Merci parce qu'un jour, on a été assis et on a reçu quelque chose. On était complètement vide spirituellement et tu es venu changer nos vies. Seigneur, merci pour l'amour que tu as eu envers nous. Merci pour la compassion. Merci parce que tu as répondu à nos besoins. Seigneur, on se sentait coupable dans notre vie. On se sentait qu'on faisait des erreurs. Et même si on essayait par nos propres forces de devenir meilleur, c'est juste en te reconnaissant toi comme sauveur que notre vie a pris son sens. Merci Seigneur parce qu'à la croix, tu as pris nos péchés. Tu nous as réconciliés avec le Père. Et maintenant, la volonté de Dieu est que nous puissions faire partager le miracle, propager la lumière, être des flambeaux dans cette génération, être des lumières dans cette ville, dans nos familles, pour que nous puissions servir les autres comme toi tu es venu servir l'humanité. Seigneur, aide-nous à ne pas être individuels. Aide-nous, Seigneur Jésus, à voir pour l'ensemble de la communauté, Seigneur. Donne-nous d'avoir ton cœur, de venir ici et de se dire, Seigneur, comment nous pouvons te servir? Comment nous pouvons servir les autres? Seigneur, le plus grand des commandements, c'est aime Dieu et aime ton prochain. Mais l'amour, c'est le service. L'amour, c'est le don. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ta vie. Seigneur, aide-nous à donner notre vie, à nous consacrer pour toi, à te donner tout ce qu'on a, ce que nous sommes, pour servir les autres. Parce que c'est en servant les autres, Seigneur, que nous sommes en train de proclamer ton amour pour l'humanité, que chaque personne est importante parce que tu es mort à la croix pour eux. Seigneur, renouvelle nos vies, renouvelle nos cœurs. Aide-nous, Seigneur Jésus, à savoir que cette saison en ce moment est une saison où la moisson est blanche. Les gens, Seigneur, sont prêts à recevoir ton nom, mais il faut que nous le proclamions. Il faut, Seigneur, qu'ils se sentent aimés. Seigneur, dans une société qui est complètement à contre-courant de tes valeurs, donne-nous de nous tenir droits, enracinés, ensemble, à proclamer que tu es la vérité et que le mensonge est brisé quand l'évangile est proclamé. Aide-nous, Seigneur, à proclamer que le nom de Jésus brise toutes les liens, même les liens les plus démoniaques. Seigneur, merci parce qu'il y a une délivrance dans ta maison. Seigneur, donne-nous d'être organisés. Donne-nous, Seigneur, de proclamer que les gens qui vont venir ici vont avoir du pain à manger, le pain de vie, ta parole. Seigneur, donne-nous de voir des gens venir ici brisés et par l'évangile, comme on va voir dans les baptêmes, être restaurés, complètement changés, parce que c'est toi qui es notre créateur et c'est toi qui es le réparateur. C'est dans le nom de Jésus que je prie et toute l'Église dit un grand et un dernier amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui fait de nous des partenaires? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et on va chanter un chant qui dit « Donne-moi un cœur tout entier », un chant de consécration. Et ce matin, je veux qu'on puisse se consacrer à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien. Donne-moi d'avoir des yeux comme toi. Donne-moi, Seigneur, de voir avec compassion les besoins et de pouvoir y répondre. Seigneur, ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la tienne. Mais ensemble, on a tellement un privilège à servir qu'on va le faire encore plus pour proclamer au monde que tu es le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que vous êtes prêts à proclamer qu'il est notre seule source de vie et de joie? Est-ce que je peux entendre?